se présente comme l'universel humain du musulman, mais c'est l'impérialisme de l'arabe qui est la preuve. Il n'y a qu'à lire l'histoire. Je pense que c'est clair. Donc, le socialisme, eh bien, c'est la grande espérance de l'universel humain, et puis, inévitablement, une société matrice impose son impérialisme aux autres. Vous voyez la différence entre l'universel et l'impérialisme. Dans l'universel, il y a vraiment unité de l'ensemble, chacun à sa place, tandis que dans l'impérialisme, c'est une manière d'être homme qui impose son moule aux autres. L'humanité est condamnée avec celle de l'universel, 70 égoïstes. Je traduis le moral, comme par fatalité. Parce qu'il n'existe pas de société humaine qui ait la capacité concrète de l'universel. Chaque goy est partiel, partiellement génial, mais partiel. Son rêve est universel. Sa réalité charnelle est spécifique. Il y a une seule société qui peut porter le rêve de l'universel, c'est Israël, parce que sa réalité charnelle est universelle et non pas spécifique. Il y a dans la salle un résumé d'humanité. Vous voyez ce que je dis ? Avec les goïnes qu'il y a derrière nous. Nos goïnes, s'ils étaient là derrière nous, comme des anges gardiens, se regarderaient en face et se diraient comment on peut se rassembler ? Oui, je dirais ça des vies. Vous voyez ce que je dis ? C'est clair, c'est la peine de l'analyser. Vous voulez que l'ONU, dernier avatar de la tentative de l'universalisme, c'est le tohu vabohu des 70 nations. C'est la preuve qu'il n'y a pas d'unité chez les hommes. En dehors, en Israël, à travers leur vie, les hommes se rassemblent. Et comme je vous ai dit, c'est la dimension messianique de la municipalité israélienne. C'est beaucoup plus naturel que de ce même effort dans la communauté juive. Par exemple, à Paris, vous avez des juifs de toutes sortes. On essaye de les faire vivre ensemble. Et vous voyez ce que je veux dire. Finalement, je ne sais pas s'ils arrivent tellement à vivre ensemble. Seulement, ils meurent ensemble, ils ont même une vie. Seulement. Au moins, il y a une idée. Mais dans la municipalité israélienne, c'est ce problème qui arrive. Je vous le répète souvent parce qu'il faut le découvrir. Si c'était des goïnes qui étaient dans la même shruna, il n'y aurait pas de shruna. Imaginez faire une shruna, un quartier, avec des Irlandais, des Écossais, des Yéménites, des Algériens, des Marocains, des Polonais. Il n'y aurait pas de municipalité. Alors il y a une municipalité. Elle a des problèmes, c'est des problèmes sérieux, des goïnes qu'il y a derrière. Parce que quand vous faites rencontrer un juif polonais, un juif marocain, c'est Peter, c'est pas le juif, le pauvre, c'est le même. C'est le goy qui est derrière Peter. Oui. Alors l'effort de l'unité d'Israël, c'est d'arriver à unifier les différentes manières d'être homme. Avec l'identité juive, c'est possible. L'identité goy, c'est pas possible. C'est ça qu'a dit le Maharal. Au niveau 70, il n'y a pas de lien à l'unité. L'histoire l'a montré. Au niveau 12, là, il y avait bien une unité, c'est une histoire. Et c'est ce que disait Midrashim, que tant qu'Israël est au niveau 12, aucun des goïms n'a de prise sur lui. Dès qu'Israël descend au niveau 70, alors les goïms ont plus. Vous savez, c'est clair. Bon, la question.
Il y a un tel mentorie à la carnage aujourd'hui de Palestiniens à la Chine d'Aman, nous sommes en Israël est rejoint par 70 nations, et nous en avons 113.
Oui. En fait, je ne sais pas comment il a dit 70 nations, je sais, je vais vérifier. Ce que je sais, c'est que quand Arafat est arrivé à l'ONU, il y a eu 70 nations contre Israël. Vous vous rappelez, quand Arafat est arrivé, il y a eu 70 contre Israël. Bon, eux, ils peuvent être connus que par 3000 nations, c'est pas important. Nous avons un seul allié sûr, c'est le bon Dieu là-haut. Alors, s'il a eu ce sujet, et ça fait 6000 ans que ça dure. Mais, d'ailleurs, je répète qu'à la place des Palestiniens, j'ai vu dans les journaux aujourd'hui, que la France leur allié. Bon, allez, vous. Notre allié. Et ils sont perdus. Là, nous allons voir tout à l'heure, c'est déjà aujourd'hui, une autre ta'ana des Palestiniens qui est beaucoup plus grave. Qui va faire réfléchir les juifs. C'est qu'ils se présentent en caricature, mais ils se présentent comme étant un Israël après Israël. C'est-à-dire la dernière des nations après les 70 nations, après Israël, et réclamant la terre d'Israël. Là, les Athéniens s'accueillirent. Là, c'est le vrai combat qui commence. Et c'est là qu'on saura qui est d'Israël, qui n'est pas d'Israël. Je pense que, c'est là que je vous en parle, à la réaction qu'a eu il y a quelques jours le grand rabbin d'Angleterre, sur ce problème qui a secoué les Israéliens comme c'était jamais arrivé. Là, je pense qu'il y a un problème grave qui se dévoile là. Simplement, je vous dirais une petite blague de pourri, là, il faut quand même s'approcher de ces choses sérieuses avec beaucoup de précaution, c'est que nous savons, on le voit dans le film, nous avons appris souvent, c'est que Israël, prenant parti de la Galilée, s'appelle Jacob. Vous savez, bon, comment il s'appelle ce joueur-là? Yacoub. Regardez l'humour de l'histoire. Alors, on revient. Si vous me dites que c'est une coïncidence, je vous dirai oui, c'est une coïncidence, mais il faut la faire. Vous avez remarqué que j'en ai pas parlé? Alors vous allez m'empêcher d'être sérieux de mon rabbin. Bon, je ne sais pas, si vous avez compris. Maintenant, si vous voulez en parle, je vous sens vraiment dans le paradis, si vous m'intéressez bien. Bien. Non, mais je crois que ce n'est pas aussi grave. Hein. La vira de la partie. Il y a quand même moins de route par an. Bien, alors est-ce qu'on est arrivé? Rapide, 12 et 70. Alors, on va essayer de trouver ça. Je voulais vous demander 5 minutes. Et là, tu vas arriver, mais du moins 5. Qui donnera les filles de manière suivante, une minute. C'est le premier et l'autre. Voilà. L'explication du Ben Ezra, c'est qu'Abraham dit cela au Ben Echet. Je n'ai pas de statut défini par vous. Je ne sais pas, à vos yeux, qu'est-ce que je suis, guerre ou tassage. Si vous dites que je suis guerre, alors je n'ai pas de caveau dans mes mémoires. Si vous dites que je suis tassage, j'ai droit à un caveau dans mes mémoires. Bon, ça, c'est l'explication du Ben Ezra. Mais nous verrons effectivement, et j'ai beaucoup cité ça moi-même, que c'est le statut d'identité d'Abraham, d'Hervé Tossav, à la fois les deux. Mais je crois qu'il faut nuancer là sur ce point, c'est le statut qui lui est imposé de l'extérieur. Ici, le Maharal dit, Abraham est d'une nature telle que l'exil ne peut pas commencer avec lui, même au premier niveau inoffensif apparemment, d'être guerre. Je crois que là, vous voyez, il y a énormément de dimensions de profondeur derrière ce que dit le Maharal. Pour comprendre ça, le fait d'avoir conscience de soi comme étant normalement chez soi dans le monde normal. Ça, c'est Abraham. Cette joie-là, il n'y a qu'Abraham qui l'a. Nous avons tous conscience de nous comme des étrangers dans le monde. Comme si nous n'étions pas chez notre père dans ce monde-là, chez le Baal Abaï. Abraham, c'est la créature par excellence, qui connaît son créateur et c'est le maître de ce monde. Hein? Cette expérience-là est extérieure complètement à l'expérience de la vie. Ça me rappelle que je vous avais demandé de préparer le Or HaHaïm de Abraham Ben Attar. Est-ce que quelqu'un veut le demander à la bibliothèque? Si, Reitra. Dans le micro de Dolores. Dans le Rasmonim ou micro de Dolores. Oui. Rasmonim de Jérusalem. Oui. Quoi, il veut parler en français? Oui, c'est vrai. Attendez, si je connais le Rassani, c'est mes voisins, on ne fait pas partie de la même crémerie, mais enfin, on se sert à la même bouchée. C'est un peu différent de l'école du Rassouk. comment je vais vous expliquer ça? C'est un peu un autodidacte, mais c'est une très grande autorité dans son genre, si vous voulez. J'ai lu dans son livre le chapitre qu'il a consacré à ce problème. Okay? Et je pense que c'est une œuvre importante. C'est un peu déroutant pour ceux qui sont habitués à une étude classique de ce même problème. Il y a un peu un cas particulier, si vous voulez. Mais ça me permet peut-être de te répondre, si j'ai bien compris ta question, parce que je connais ton enseignement. Bon, c'est ceci. Il y a pour chacun ce que j'appellerais trois dimensions. Du point de vue de sa destinée. Okay. Il y a la dimension que j'appellerais la volonté, est libre. C'est-à-dire, l'homme, la créature, maître de sa destinée, pouvant intervenir librement dans son sort, dans l'histoire, dans la vie, dans l'existence. Okay. C'est la première dimanche. Je me réfère à des sources kabbalistes que je ne citerai pas. Celle-là, elle est toujours d'un livre froid. Bon. Pourquoi? C'est un autre problème. Il y a d'autre part la providence, la manière dont Dieu intervient dans ma vie. Compte tenu de cette première dimension, il y en a une troisième. Celle-là, elle est d'un livre. Ah, c'est l'inverse, pardon. Celle-là est d'un livre 4, celle-là est d'un livre 3. Et puis il y a le destin. Le destin, c'est quoi? Goral. Et en réalité, j'ai expliqué, en réalité, ce qui m'arrive, c'est le résultat de ces trois facteurs. Le destin, ça veut dire le capital génétique qu'on m'a donné à ma naissance et avec toutes les influences de partout. Okay. Il y a un destin. Le paganisme ne connaît que le destin. Je m'insère au destin et c'est ça la religion pagane. Vous comprenez? Non. C'est vraiment schématique, mais ça se relie avec Samy. Okay. La providence, c'est quand Dieu librement décide d'intervenir dans mon destin. Okay. La volonté, c'est quand moi, je peux suffisamment libre faire éclater mon destin. Alors, si cette force a abdiqué, si cette force ne joue pas parce qu'il n'y a pas de logique, parce que les bonhommes de la cadeau dans le coup, alors le destin fonctionne. Et donc, s'il y a un vice quelconque dans la carte génétique, il peut y avoir paranoïa, schizophrénie, et même rhume de cerveau. Alors, la Kabbalah indique à ce propos qu'il faut une collaboration entre la volonté libre et la providence pour faire échec au destin. Voilà comment elle le met. Si vous prenez la racine carrée, pas la racine carrée, le carré de 4, ça fait 4 fois 4, 10, plus le carré de 3, 9, ça équivaut à, ici c'est 25, à 5 fois 5, 25, et 9 et 16, ça équivaut à 25, et alors le destin change parce que on a pu obtenir une force qui contrebalance. Il y a 25 là et 25 là, ça y est, et 25 c'est très important. Parce que le mot clé qui indique que le destin est pris en charge par la providence et qui est libéré, c'est Donc, tu avais parlé tout à l'heure de sa question ou j'ai oublié? Ah bon. Alors, c'est-à-dire que si on faut qu'il va prendre à plusieurs fois pour arriver à réussir, On a plusieurs examens à passer, plusieurs sessions, plusieurs sessions possibles. Hein. Bien. Bon, c'est pas grave, cette question-là, écoutez, avant de terminer, c'est pas grave, je vais simplement vous lire, j'ai parlé hier. C'est très important qu'il soit lié à notre problème. C'est-à-dire, être dans la galoute, c'est ne plus être chez mon père, le bon Dieu. C'est-à-dire, dans un Olam ou Abraham, c'est la créature qui était son père et qui ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire être guerre. Mais avec, il est Ben, il est le fils, c'est lui, c'est son père. Vous voyez le problème? Ce que je veux toucher là, c'est le sentiment existentiel de l'homme qui ne fait que ça dans le monde. C'est la situation d'exil. Que le peuple juif vit au paroxysme, mais pour le salut du monde. Parce que c'est la situation normale de Goïm, de cette désespérance du fils qui n'est plus fils, c'est lui. Vous comprenez? Qui a, selon l'expression du Talmud, qui ne mange plus à la table de son père. C'est l'autre sommet, Al-Sulchanabi. Vous comprenez ces expressions? Et alors, c'est ça la condition de l'exil, qui est la condition humaine. Depuis la dispersion, depuis l'échec de la tour de Babel, depuis la sortie du paradis, tout ce que vous voulez. C'est à différents niveaux. Et alors, les Juifs vont prendre sur eux cette condition pour sauver le monde. Et notre maître disait, la seule existence nue, sans mérite, du Juif en Galoute, ça sauve le monde. Vous voyez comment ça se rattache au moral, okay. Et il faut bien savoir que c'est une diaspora seconde, greffé sur la diaspora humaine, donc provisoire, en vue du salut, donc provisoire, mais en quoi il consiste à ne plus être chez papa? faire, grosso modo, comme ça. Ça y est, c'est clair ? Edgar, c'est Abraham, pas tout. Reste du mort. Alors, regardez l'expression qu'emploie le Ora Haïm à ce propos. Je vais vous indiquer la référence, c'est Vaïtra 26, chapitre 26, verset 26. Comme je vous dis, une référence facile à se rappeler. 2 fois 26. Alors, il dit ceci. Peut-être que vous l'avez lu une fois, non ? Un autre numéro. Ah, non, c'est pas cette référence-là, attendez. Et est-ce que je peux avoir chez moi de prendre de l'eau? Non, avec une croix de l'eau. Où était la... comment elle s'appelle? Elle est partie? Non, c'est 20, ça fait 23 dans les lignes. Non, je ne sais pas. Une ligne. Est-ce que quelqu'un peut me dire où se trouve le verset qui a mouchahicha Isaac? C'est dans Vaïtra, mais quel chapitre? Ah. Ça me gare. Oui, c'est chapitre 27. Maintenant. Bon, on va tout simplement prendre une concordance. Est-ce que la bibliothèque est ouverte? Quelqu'un veut voir si la bibliothèque est ouverte? Je vais demander une concordance de l'ICANA. C'est pas son échappe, mais... Oui, c'est 25. Voilà. Écoutez, c'est... Non, ça y est, j'ai pas d'appel, là. C'est pas 26, c'est 25. C'est coco. Alors, c'est l'écran 25-25. Une minute que je retrouve le commentaire et je vous le dis. Voilà ce que dit le verset. Lorsque ton frère sera trop faible, bien entendu économiquement, si Yamour, Ahicha, ou Macher, Nahruzate, il aura vendu son héritage, ou va Goalo à Carovela, son sauveur, Goalo, celui qui va racheter l'héritage pour lui. Le plus proche de lui viendra, Vedal, Kunkarafi, et il délivrera la vente forcée qu'a dû faire son parent. Alors, le Rachaïm explique ceci. Rachazou, c'est pas Racha, Kirmod et Nyan Gadol. C'est allusion à un sujet important. C'est un avertissement aux habitants du monde. Si Amour, quand ce deviendra prophète, Alderech, Omro, ça il faut le comprendre après que dit un verset qui dit dans la paresse, celui qui fait advenir les événements sera affaibli. Verset mystérieux, mais on va l'appliquer à Dieu lui-même. Amrouzal, nos maîtres ont dit, Ashitem Neotos Nemar Bo Amkare Bayamim Aliotav, de celui dont il a dit, dont il est dit dans le verset, c'est lui qui fait advenir les événements, Mar, il est devenu faible, la providence. Okay? Regardez comme c'est dit, c'est extraordinaire. Qui, que ça s'artemine, ma fille ne devait rassurer. Parce que lorsque les êtres d'en bas se détournent du droit chemin, nous pelkim à Astaot, les influences de Messie qui viennent d'en haut se retirent. Vous suivez ? Au Mutmasken, à Amoudakusha, la colonne de la sainteté s'appauvrit. Si à Icar, sa louise va partir. Parce que tout dépend de la conduite de ceux d'en bas, des êtres d'en bas. Vous voyez, si la volonté ne joue pas, la providence est affaiblie. Et alors le destin joue. Bon. Véhamar, et le verset a dit, ou Machar Merhugato, il a été affaibli. Il a dû vendre son héritage. Tiraté, ça sera compris comme ça. À la Mishkan, ça concerne le sanctuaire. Mishkan Aedut, le sanctuaire du témoignage. À Cherou, à Hosaté, le Barak, qui est l'héritage de Dieu, le temple de Jérusalem. C'est beau, il sera Srinato, où il a fait réaliser sa présence à Srina, ou bien à volonté nous. Et à cause de nos fautes, l'Imkar Abaït, l'idée à Oumot. La maison du temple, la montagne du temple a été vendue aux autres peuples. Oukma Amaramzal, comme ont enseigné nos maîtres, le Pirouj Pasouk, à propos du verset de Psaume, Mizmor le Asaf, le Psaume de Asaf, qu'on dit d'ailleurs dans les jours de jeûne, Baou Goïm Nahalatecha. Ce sont les Goïm qui sont venus s'installer dans ton héritage. Et Bia Akatou, et le texte nous fait savoir ici, qui Goulato, lui, Bia Dassadik. Que la délivrance du maître de cette maison qu'il a dû vendre à d'autres parce qu'il n'avait plus de quoi manger, c'est entre les mains du juif, de l'homme juif. À chérir Carole la chaîne, celui qui est proche de Dieu, comme a dit le verset, le libérateur, c'est son plus proche parent. Alderech, Omro, d'après ce que dit un autre verset, dit Trova et Akadé. C'est par mes proches que je serai sanctifié. Rou, Igal Ninkarachi, le verset a dit, c'est le proche qui devra délivrer l'héritage de son frère que son frère a dit vendre. Qui? Alors c'est là que ça commence. Il y a Adon Baruch, car le maître du monde, Karala Sadikim a nommé les justes frères. Il appelle frère quiconque est juste. Kéliachol, pour ainsi dire, ainsi qu'il est dit, le Ma'an, Achai Verehai, Adarera Shalom Bar. Je ne dirai la paix qu'à ceux qui sont mes frères et mes amis. Mais là, c'est Dieu qui parle, et il dit la paix aux justes qu'il considère comme ses frères. La Géoula et la délivrance, Géoula, qui est de Haïr Livot Bne Adam, arrivera quand le cœur des hommes se réveillera, et à mer la haine, et qu'il leur sera dit, Hatov la haine, est-ce que ça vous fait du bien? Quittez-vous, Khous, que vous habitiez à l'extérieur, guerre, vous voyez, Galout, Golim, exilé, Me'al Sulchan Adichem, de la table de votre père, ou Maï Erav Lachem Achaïm. Et quelle joie, jouissance vous pouvez avoir de la vie, Baolam, dans le monde, Zulat, Ahevra et Yona, en dehors de cette compagnie supérieure, compagnonnage, Ahevra, Achereïtem Smouchim Saviv Sulchan Adichem. Lorsque vous étiez autour de la table de votre père, vous, Elokeh Olam Baruch Hu, qui est le Dieu du monde, מס לעיניכם תאוות הנגנים, יתקפקה ויידגו דדגי רעים אדמר, ויערם בחשק הרוחני כבישוי אלה ידידי יחסיב את יאל, גם נרגש לבעל נפש כל חי, וכקיקון כקפת דבי, קיקון גבי ורבן, פורה רסנטיר, עד אשר יטיבו מעשיהם, רסנטיר שלה, jusqu'à ce qu'ils améliorent leur conduite ou basés dans la semaine chaos. Et là, Dieu délivrera cet héritage qu'il a été obligé de vendre. Alors voilà la dernière phrase que je voulais vous dire. « Véazé, Akidin, Nidez et Adin » et à cause de cela, sont destinés à passer en jugement qu'on a donné à Arès. Tous les maîtres du monde adonnent. Comment traduire ? Tous les princes du monde, si vous voulez, Gdolé Israël, les grands d'Israël, où Mehen Ibakeshachem, et Dieu réclamera d'eux, Elbon Abaït Aalouv, le veuvage de cette maison qui restait en deuil. Vous voyez quelle est l'indication du Rahim ici, qui est considérable. C'est-à-dire que la perpétuation de la galoute oblige Dieu à être affaibli dans ses droits sur son monde. Ses enfants sont exilés, il n'est pas le maître de sa maison. Et de cela, dit le Or HaHaim, les grands d'Israël rendront compte. C'est-à-dire que ce n'est pas les Juifs qui sont responsables, c'est leur chef. C'est clair. Bien, alors il nous reste quand même le temps de finir le paragraphe malgré tout. Bon, on a compris donc que l'exil de Jacob ne commencera que lorsque Jacob, la famille de Jacob, sera au nombre de 70. Sur cette analyse, je ne reviens pas. Il y a quelque chose qui me manque, là. Vraiment, en bas de page, une phrase, il me dit extrêmement vite. On va prendre le paragraphe suivant. Vous me donnez car, et à cause de cela, d'avouer que la devarine va se faire néo. Tout ce qui nous a. Et il vous manque aussi toutes les phrases. Hein? Ah, certains. Oui. Alors, vous venez car j'avoue que la devarine va se faire néo. Et par ce fait, tout ce qui nous a enseigné retrouve son ordre, qui est célébrable le Mishkar Shungeri. Par rapport à Abraham, ne mentionnez jamais le fait qu'il soit étranger. Rak Mitzrachvaela, mais à partir d'Isaac seulement. Kacher Ayush et Dinnefesh, quand ils ont été 70 personnes, Adiardou Mitzrachvaela. Alors ils sont descendus en direction de l'Égypte. Et Taham, Asher et Vaël, Bachamour, pour une raison qui va être encore expliquée. Pourquoi Dafka en Égypte? Pourquoi c'est en Égypte qu'ils sont descendus? Ou Mitzrachvaela, Kilo Ayu, Yaakov, Uvana, Vreim, les Mitzrachvaela et Savasmam. Et par le fait que Jacob et ses enfants, c'est-à-dire lui Jacob, et les 12 tribus, les 12 chefs de tribus, ses enfants, eux n'avaient rien à voir à aller dans cette exil-là. Vous voyez, ce n'était pas leur place, l'Égypte. Rak des mains chez Nichlalou et chez Nineffet. Sinon par le fait qu'ils étaient parmi les 70 qui ont commencé l'exil. C'est-à-dire qu'en eux-mêmes, ils n'avaient rien à faire dans la galerie. Mais ils se sont inclus dans les 70. Et parce que lui, ils sont descendus dans l'exil. Vous suivez? Alors là, Mim Yaakov, le testament de Jacob, la Sekoto Aharmoto, a été qu'on le fasse remonter tout de suite de Kineur. Ça veut dire que ce n'est pas sa place là-bas. Mais donc, Jacob a été remonté de l'Égypte dès sa mort. L'Eretz Knaan, au pays de Knaan, Achar Shemidal Asirou Fazé, Shayan Echval de Shizinefe. Dès que le lien qu'il avait avec les 70 dieux, en tant que 70 dieux descendant en exil, dès que les rompus, son cercueil doit être amené tout de suite dans le pays de l'Inde, ce qui est arrivé. De Zéhou la Harmoto, c'est-à-dire juste après sa mort. Zéhou la Harmoto, c'est-à-dire de même les ossements de ses fils, les tribus. Et alors, vous voyez la différence. Jacob est beaucoup plus haut, c'est l'unité absolue. Les tribus, c'est encore l'unité. Ils ne vont pas rester dans l'exil. Leurs ossements seront emportés. Mais plus tard, c'est une madriga inférieure. Jacob, lui, tout de suite. Vous voyez la différence? Pour nous expliquer ces différences de degrés. du point de vue du rattachement à l'unité. Alors je continue. Parce qu'il y a une différence de degré entre Jacob et l'Ethénie, qui a Jacob, Yoter, Messiahis et l'Eret Israël. Jacob est beaucoup plus lié à l'Eret Israël. Ça ne comprend pas ce que je dis tout à l'heure. Jacob en Eret Israël s'appelle Israël. Jacob en Galout s'appelle Jacob. C'est clair. Vous vous rappelez que c'est quand il revient de sa Galout à lui qu'il reçoit le nom d'Israël. Il revient en plaidant, en disant vous vous rappelez, j'ai fait la preuve que j'ai gardé la foi, je reviens avec ma foi, alors on l'appelle Israël. C'est clair. Mais lorsqu'il redescend en Galout, on va relappeler Yaakov. Et s'il oublie qu'il s'appelle Israël, on va le retrouver à Londres et il s'appelle Yaakovovi. Bon, alors on revient au problème. Bon, vous comprenez par vous-même les différentes nuances de degré. Et c'est pourquoi Jacob revient en Eretz Israël tout de suite à sa mort. Alors que les tribus, leurs ossements seulement. Car les patriarches et les tribus, de par leur degré d'élévation de sainteté, leur convient la terre sainte. Rachmissa, c'est une chose à Jacob et Chilina, ce n'est que par le fait que Jacob était inclus dans les 70, chez Milet, il est une salle de Shratim, où Mikol, c'est qu'il y a une salle de Jacob avec nous, et Raoui, la bonne Israïma, Rachmakom, c'est la haine, mais Retzna, après Stradit. Ou Mea, c'est une salle, si il ne fait rien, mais mon temps, Hazou et la Haret, c'est à Zmitra, la Sirou, Fazé, c'est la haine, qui est Chilina. Donc, simplement une phrase. Une des preuves que c'est le fait d'être 70 déjà dispersés, prêts à la dispersion, qui fait que l'exil commence, c'est le fait que les Shvatim, qui n'ont rien à voir avec cet indice de pluralité, eux sont les 12 qui sont un, ceux-là, dès que c'est fini leur rôle dans l'exil, il a fallu qu'on les ramène. C'est clair, parce qu'ils n'ont rien à voir avec l'exil. Ils ont voyagé, mais l'exil est propre à la communauté d'Israël en tant qu'elle est déjà atteinte par la pluralité des dispersions et en vue de prendre en charge au même niveau la dispersion des goïnes, de telle sorte qu'au moment du retour en Israël, la réunifier. C'est clair ? Bon. Alors, quelle est la suite ? Bon, une raison unique, je ne crois pas que ça ait de sens d'avancer dans le texte. Je vais vous proposer une chose. C'est que vous avez le texte. Ceux qui reviennent, gardez-le. Pour les autres qui ne reviendront pas, laissez-le pour les autres qui seront là les autres jours. Je pense qu'on resterait le mois entier dans ce chapitre, et on n'aurait pas encore eu ce qu'il y a dedans. Alors je vais vous choisir quelques phrases clés pour demain, de cette façon de terminer ce sujet de les causes de l'exil. Et qu'à partir d'après-demain, on puisse commencer un deuxième sujet. Vous êtes d'accord ? Vous voulez qu'on continue ? Je pense que vous avez suffisamment de clavines pour comprendre ce premier thème. Hein? Quoi qu'on n'a pas abordé le fond du problème. Le fond du problème, c'est que les trois raisons, c'était la mobilisation des Yeshivat Hesder, les Tamilach Hanoum. D'autre part, qu'on n'a pas fait assez de guérir. Et d'autre part, qu'on doutait de notre droit sur la terre. Vous vous rappelez de cela? Alors, ce que je vous propose, c'est que je vous fais un exposé en prenant appui sur quelques phrases du Maharal et pas l'exégèse du Maharal. Vous êtes d'accord? Bon. Mais alors, ce sont les textes, préparez-les pour demain. Vous voyez, il y a énormément de chokhma là-dedans. Et alors, après, on abordera le deuxième sujet, c'est-à-dire le rôle de Moïse dans la sortie d'Égypte. Je voudrais vous rappeler que ce soir, à 6h30, nous commençons la deuxième série des exégèses sur texte avec le docteur Prince, j'y serai aussi. Et le soir à 8h, ce sera à 8h30, à 8h30, je donnerai donc la première conférence sur le pharisaïque. En tout cas, je vous signale que toutes les conférences sont importantes. Celle de Georgien en celle demain est très importante sur un point très précis, la dialectique entre la révélation et la Torah Shibata et la Torah Shibalté finalement, et la décision des Hachmé Israël. Mais je dis en particulier, il y aura le pasteur Lima qui viendra donner son point de vue sur le problème du pharisaïsme. Je crois que ce sera une soirée assez importante. Et si vous pouvez retourner là, vous aurez les surprises. Et ensuite, on se verra à dimanche. Mais j'observe. Ah bon, c'est important.